Bonjour à tous, bienvenue dans le 13-14. France Inter vous ramène au lycée aujourd'hui, lycée de Les Souriaux aux Ulysses en Essonne, 1400 élèves, filière générale technologique et professionnelle, une classe prépa scientifique, une convention avec Sciences Po. Nous avons installé notre studio dans la salle polyvalente, tout près du hall d'accueil et de sa verrière sous laquelle passent les lycéens. Un hall où s'affiche pêle-mêle une lettre de soutien aux profs après l'attentat contre Samuel Paty, un poster écolo expliquant le cycle de vie d'un objet ou encore un appel à participer au forum d'orientation. Les lycéens que nous avons rencontrés s'informent sur la vie publique, ils s'engagent dans des associations, mais qu'ils votent déjà ou non, ils ont du mal à s'y retrouver dans la campagne électorale et c'est parti. Parole de deux élèves de seconde, Lucie et David.
C'est complexe. C'est trop complexe. Je me dis qu'un vote, ça peut pas forcément changer énormément de choses.
C'est plutôt important de s'intéresser parce que c'est quand même important pour le pays. Une démocratie où les citoyens ne s'intéressent pas à la politique, je vois pas comment on peut voter consciencieusement.
Alors que les enquêtes font craindre une abstention record des jeunes pour les élections à venir, s'intéresse-t-il à la campagne présidentielle? Et après 2 ans d'incertitude sur fond de Covid, comment envisage-t-il l'avenir, à commencer par l'orientation? On en parle jusqu'à 14h avec nos invités ici aux Ulysses, élèves, professeurs, parents, mais d'abord les grands titres de l'actualité ce jeudi. Et c'est avec vous Frédéric Barrère, bonjour.
Bonjour Marion, bonjour à tous. Et l'actualité à la mi-journée, c'est d'abord la fin de l'opération militaire Barkhane au Mali. La France et ses alliés ont officialisé ce matin leur retrait militaire de ce pays. Entre 2500 et 3000 soldats français resteront toutefois au Sahel. Nous verrons également les réactions politiques après cette annonce. La parole au parti civil au procès de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray. Ce prêtre assassiné dans son église le 26 juillet 2016 par deux terroristes islamistes, avec notamment ce matin le témoignage d'un rescapé de cette attaque, Guy Coponnet, un paroissien gravement blessé à la gorge, et l'un des accusés a demandé pardon. La campagne présidentielle à l'heure de la clarification pour Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement National, a présenté le volet retraite de son programme. Et puis nous irons aux Jeux Olympiques de Pékin pour le programme libre en patinage artistique et le sacre attendu de la jeune patineuse russe Kamila Valieva, Marion.
Et juste avant 14h, musique. Après 2 ans d'interruption, les lycéens espèrent pouvoir organiser à nouveau leur bal de fin d'année. On fera le point sur les préparatifs et on vous fera écouter la bande-son en avant-première. Le 13-14 au lycée de Les Souriaux en Essonne. Vous avez le menu, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Et nous démarrons cette émission dans la salle polyvalente du lycée de Les Souriaux aux Ulysses, tout à côté du hall d'accueil, linoléum sur le sol, éclairage blanc, un tableau, un écran avec un rétroprojecteur sur le mur, ça vous rappellera peut-être des souvenirs, et quelques élèves et professeurs avec nous autour du studio de France Inter installé pour l'occasion. Avec nous aussi Sonia Princé, spécialiste éducation de France Inter. Bonjour Sonia.
Bonjour.
Un tiers des moins de 25 ans s'était abstenu en 2017 au premier tour de la présidentielle, et si on en croit les dernières études, ce pourrait être encore plus cette année. Alors les lycéens d'ici s'intéressent-ils malgré tout à la campagne, à ses candidats, à ses sujets de débat? Sonia, vous nous emmenez au centre de documentation et d'information du lycée où vous avez assisté à un cours d'EMC, ça veut dire enseignement moral et civique. Avec leurs profs, les élèves de seconde travaillent sur les thèmes de la campagne présidentielle.
Allez, installez-vous, sortez vos affaires.
Oui, pour chaque thème, les lycéens doivent trouver quelles sont les positions des différents candidats, par exemple sur l'immigration, le pass vaccinal ou encore la taxation de l'héritage pour Lucie.
En fait, ils ne sont pas tous d'accord.
Bah non, bah c'est bien ça l'intérêt.
Bah oui, c'est plus simple s'ils étaient d'accord.
Ces élèves de 15 ans suivent plus ou moins la présidentielle, mais sans passion, selon Arwa et Lola.
J'écoute souvent les discours de Mélenchon ou bien de ceux de Valérie Pécresse, mais juste pour savoir. Ça m'intéresse pas forcément, mais on doit au moins savoir qui veut se présenter et qui va représenter la France.
Ça m'intéresse, mais c'est pas quelque chose que je prends à cœur non plus. C'est pas mon hobby. C'est juste, je trouve ça important d'avoir des connaissances sur ça.
Ils se renseignent principalement sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Discord pour David.
Il y a des petites communautés sur Internet où on parle un peu de politique, souvent des serveurs Discord. Donc on peut être une centaine comme une dizaine, mais c'est intéressant.
Et vous parlez de quoi ?
D'un peu tout, d'éducation, de l'Europe. L'Europe, c'est un sujet qui revient. Le cannabis aussi, on en a parlé. Le problème, c'est que ça parle beaucoup de Zemmour.
Des biais que tente de corriger cette séance en classe. L'objectif de l'enseignante, Malini Ranchor, est de confronter les points de vue de tous les candidats.
Il leur manque des connaissances un peu pour bien comprendre ce qu'ils entendent dans les discours. Parce que par exemple, on avait évoqué le droit de vote à 16 ans. Et la réaction que j'ai eue de mes secondes, c'était « surtout pas, on n'y connaît rien, on n'est pas capable de voter ». Il y a vraiment ce sentiment assez fort de ne pas se sentir légitime et de ne pas être compétent pour prendre une décision. décision qui leur semble très importante quand même. Moi, à leur âge, j'aurais été super contente de voter à 16 ans, quoi. Mais eux, non, pas du tout.
Alors Sonia, est-ce que les élèves qui ont 18 ans se sentent eux plus légitimes ?
Eh bien pas forcément. Antoine, en classe de terminale et qui a désormais le droit de vote, dit qu'il ne s'intéresse pas du tout à la campagne présidentielle.
Je pense pas que je vais voter. Franchement, j'y connais rien et ça m'intéresse pas tellement. Je trouve qu'ils s'amusent plus à s'insulter les uns les autres qu'autre chose. On verra peut-être plus tard selon les candidats, mais là pour l'instant non.
Pour l'instant, non. Élise, elle, était aussi appelée à voter pour la première fois et elle est très embarrassée.
C'est un peu troublant, on sait pas trop pour qui voter, mais il faut s'informer pour pas voter non plus pour n'importe qui comme ça. Mais pour l'instant, je suis pas trop informée. On sait que c'est important de voter, on sait que voilà, maintenant on a 18 ans, donc on peut voter. Moi, je voterai.
Ces jeunes expliquent qu'ils sont surtout focalisés sur le bac et sur Parcoursup. La politique passe après.
Sonia Prince, on vous retrouve tout à l'heure à partir de 13h20. Premiers échos donc de nos rencontres avec les lycéens des ULIS. Parcoursup aussi, hein, la plateforme d'orientation pour les études supérieures. On en parlera effectivement dans la deuxième partie de cette émission. En attendant, Frédéric Barrère, je dois vous dire qu'on hésite à aller faire un tour à la cantine. On y a en tout cas été invité par le personnel du lycée. Il y a de la tempura de poisson blanc au menu. Miam miam. Frédéric, l'actualité du jour, c'est ce retrait français et européen du Mali qui est désormais acté.
Retrait militaire du Mali et des 2400 soldats français encore présents dans le pays. Décision annoncée ce matin par Emmanuel Macron en lien avec les partenaires européens et africains engagés au Sahel dans la lutte contre les djihadistes. Quitter le Mali où les conditions de la lutte antiterroriste ne sont plus réunies pour mieux rester au Sahel et s'adapter aux évolutions de la menace djihadiste en Afrique de l'Ouest. Bonjour Christian Sénchineau.
Bonjour.
Vous avez suivi la conférence de presse du président de la République et Emmanuel Macron a bien insisté. Ce n'est pas un échec français au Mali.
Oui, Frédéric, selon lui, le pire a été évité grâce à l'opération Serval de 2013, décidée à l'époque par son prédécesseur François Hollande. Il y aurait eu à coup sûr un effondrement de l'État malien, assure aujourd'hui Emmanuel Macron, qui met en avant les succès des militaires français qui ont liquidé physiquement plusieurs cadres d'Al-Qaïda et des groupes djihadistes. Le problème, c'est que depuis l'arrivée d'une junte au pouvoir en 2020, l'équation politique a changé au Mali. Paris et Bamako n'ont plus le même agenda et Emmanuel Macron, forcé de constater que le Mali ne fait plus sa part de travail dans la lutte contre le terrorisme.
La France est intervenue au Mali, premièrement pour lutter contre le terrorisme, deuxièmement à la demande d'un État souverain et des États de la région. C'est cette deuxième condition qui change aujourd'hui. Et la victoire face au terrorisme, elle n'est pas possible si elle n'est pas portée par l'État lui-même. Et pourquoi nous décidons aujourd'hui de partir ? Parce que la junte qui est en responsabilité au Mali n'en fait plus sa priorité.
Et le président Emmanuel Macron s'en est pris également aux mercenaires russes présents au Mali.
Oui, dans ce divorce entre la France et le Mali, il y a l'entrée en scène des mercenaires du groupe privé Wagner. Ils seraient environ 800, a indiqué Emmanuel Macron, des hommes qui arrivent avec des finalités prédatrices pour protéger les intérêts de la junte à Bamako, a poursuivi le président français, qui malgré tout a tenu à préciser qu'il ne s'agissait pas d'un contingent militaire russe officiel déployé par Vladimir Poutine dans le cadre d'un accord de défense avec le Mali, comme si en pleine crise ukrainienne, la France ne voulait pas envenimer le dialogue avec la Russie.
Christian Chesneau, merci. Alors ce retrait des forces françaises prendra 4 à 6 mois, un retrait coordonné avec le Canada et des alliés européens dans la force Takuba au terme de 9 ans de lutte anti-djihadiste. Bonjour Marie-Pierre Véraud.
Bonjour Frédéric.
Et désormais le cœur de l'action sera au Niger, dans la zone des trois frontières, a expliqué Emmanuel Macron, mais pas seulement. L'état-major des armées a donné des précisions.
Oui, notamment le fait qu'à terme il restera donc entre 2500 et 3000 militaires français au Sahel, mais il ne s'agit pas, dit-on, de les déplacer du Mali vers un autre pays de la région. Le dispositif actuel ne sera pas dupliqué, que ce soit dans un pays d'Afrique de l'Ouest ou au Niger. C'est une réarticulation, précise l'état-major, une nouvelle approche tactique et stratégique, une logique d'opération fondée sur un appui et sur un accompagnement des forces locales. Les leçons du Mali ont été retenues. C'est une approche collective, en coordination avec les États, qui sera privilégiée. Alors, au fur et à mesure de ce redéploiement, les militaires français seront rapatriés en métropole. La France va conserver ses emprises au Tchad, à N'Djamena, à Niamey. Un groupement tactique reste lui engagé auprès des forces armées du Niger dans la zone des trois frontières. Un deuxième volet du dispositif concerne les forces permanentes au Sénégal, au Gabon, en Côte d'Ivoire, mobilisées pour des partenariat, encore une fois en fonction des besoins exprimés par chacun des États. Une question reste en suspens. Qu'adviendra-t-il des emprises françaises fermées au Mali, à Gossi, Ménaka et Gao? Il ne s'agirait pas qu'elles deviennent un sanctuaire pour les forces russes, comme c'est le cas actuellement à Tombouctou.
Marie-Pierre Véraud, merci.
Et en période de campagne pour l'élection présidentielle, Frédéric, ce retrait militaire du Mali est bien sûr très commenté par les différents candidats.
Oui, et de droite à gauche, les oppositions sont quasi unanimes. La France doit se désengager du Mali. Bonjour Anne Souhaitement.
Bonjour.
Mais notre mission au Sahel n'est pas terminée. C'est notamment ce que déclare Valérie Pécresse, la candidate Les Républicains.
Oui Frédéric, pour elle, il faut continuer à lutter contre l'islamisme dans le Sahel, mais plus depuis le Mali. Valérie Pécresse sur LCI ce matin.
Moi je souhaite que la France reste au Sahel. Voyez. En revanche, je pense que la façon dont la France est traitée par la junte malienne n'est pas digne et qu'on ne peut pas payer le prix du sang pour un pays qui ne veut pas de vous.
Alors, même ligne défendue par la candidate socialiste Anne Hidalgo, qui s'inquiète toutefois de la sécurité des troupes qui vont être redéployées. Les autres candidats de gauche sont plus sévères. S'ils soutiennent le retrait, ils y voient un échec. Jean-Luc Mélenchon dénonce un retrait piteux, prévisible. L'opération justifiée sous François Hollande n'a jamais pris la dimension politique nécessaire, selon Bastien Lachaud, député insoumis.
L'erreur d'Emmanuel Macron est d'avoir voulu avoir raison tout seul, de refuser de discuter. On ne résoudra pas la situation au Mali par une action militaire. Il fallait travailler sur les questions démocratiques. Tout cela n'a pas été fait.
Privilégier le dialogue politique, la voie diplomatique, plaide aussi l'écologiste Yannick Jadot. Renforcer la coopération et le développement pour le candidat communiste Fabien Roussel ce matin sur CNews.
10 ans, 58 morts, pour quel résultat? Il faut s'interroger et reconnaître aujourd'hui que si notre présence a été utile, si notre présence a permis, y compris de tuer des djihadistes sur place, de récupérer du terrain. Aujourd'hui, nous en avons perdu. C'est un échec.
Un échec, une humiliation, renchérit Marine Le Pen. La candidate RN estime que la stratégie aurait dû changer il y a déjà plusieurs années. Éric Zemmour s'exprimera lui cet après-midi.
Anne Souhaitement, merci. En bref, à l'étranger, concernant la crise ukrainienne, la Russie, accusée de souffler le chaud et le froid ces derniers jours, annonce ce matin ramener dans leur base des unités de blindés. Un train chargé d'équipements militaires a également quitté la Crimée, selon Moscou. Et puis au Brésil, le très lourd bilan des inondations de Petrópolis dans le sud-est du pays. Au moins 104 personnes ont perdu la vie. La ville touristique a connu les pires pluies en 90 ans et le Brésil vit une saison des pluies particulièrement meurtrière cette année. Le procès de l'assassinat du père Hamel devant la cour d'assises de Paris. Quatrième jour d'audience sur l'attentat dans l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray en juillet 2016. Avec ce matin le témoignage de Guy Coponnet, le paroissien, aujourd'hui âgé de 92 ans, avait été grièvement blessé lors de l'attaque survenue dans cette petite église. Bonjour Ariane Grissel.
Bonjour.
En direct de la cour d'assises spéciale, Guy Coponnet a livré un récit poignant et l'un des accusés, Ariane, a demandé pardon.
Oui, avant la suspension d'audience, le président accorde la parole à Farid Kelly, le cousin de l'un des assaillants. Monsieur Coponnet, ça fait 5 ans, 6 mois et 20 jours que j'essaye de vous parler. Vous m'avez bouleversé, dit l'accusé à cet homme de 92 ans. J'aurais dû faire beaucoup, beaucoup plus pour éviter cette tragédie. Je vous demande pardon de ne pas avoir fait autant que j'aurais dû. Des excuses que Guy Coponnet a saluées à la sortie de la salle d'audience.
Un accusé qui s'excuse, qui demande pardon et qui est prêt peut-être à me serrer la main. C'est formidable. Oui, je suis soulagé qu'il y ait quelqu'un qui est mis en cause et puis qui demande le pardon tous les matins. C'est ce qu'il vient de dire. Écoutez, si chacun en faisait autant, bon sang. On n'a pas perdu notre temps ce matin. Je suis sûr qu'on n'a pas perdu notre temps.
Pendant sa déposition dans la matinée, Guy Coponnet a fait part de son souhait d'entendre des excuses. Ce serait merveilleux, dit-il, dans une salle d'audience bouleversée par son témoignage. Son énergie et sa force impressionnent. Le président le lui dit à plusieurs reprises. Un récit ponctué d'appels à la fraternité, d'humour parfois. À un seul moment, sa voix se brise. Le vendredi saint, on fait le tour de l'église avec les tableaux du chemin de croix, raconte-t-il. Je ne peux plus. Les dernières stations, c'est ce qu'a subi le père Jacques. Ils l'ont massacré comme ça.
Ariane Grissel avec Hélène Langlois. Et à Grenoble, devant la cour d'assises de l'Isère, la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans, a été requise contre Nordal Landais pour le meurtre de la petite Maïlis. Je vous demanderai de déclarer Nordal Landais grand criminel, grand prédateur, a déclaré l'avocat général Jacques Dallest dans son réquisitoire, qualifiant l'accusé de danger social absolu. On en vient à la campagne présidentielle avec l'heure de la clarification pour Marine Le Pen sur le volet retraite de son programme. Pour la candidate du Rassemblement National, sa proposition d'une retraite à 60 ans après 40 annuités de cotisation est un élément fondamental de son programme. Et pourtant, il y a quelques jours, Marine Le Pen a semblé changer de pied sur les retraites. Bonjour Élodie Forêt.
Bonjour.
Vous avez suivi les explications de Marine Le Pen lors de sa conférence de presse et la candidate du RN savait qu'elle était attendue au tournant.
Oui Frédéric, cette fameuse règle des 60 ans âge légal avec 40 annuités faisait bien partie des totems jusque-là de Marine Le Pen. Mais dans cette campagne où les votes à prendre sont notamment côté LR, ce totem pouvait effrayer certains électeurs. Il est donc abandonné, excepté pour ceux qui commencent leur carrière entre 17 et 20 ans, qui pourront partir à 60 ans à taux plein.
La philosophie qui était la nôtre, qui était de dire plus on démarre tôt et plus on doit pouvoir partir tôt, eh bien elle est parfaitement respectée.
Au-delà de 20 ans, l'âge de départ à la retraite et le nombre de trimestres pour un taux plein est progressif sans jamais dépasser les 42 annuités. La candidate qui, avec cette réforme, se débarrasse de toutes les mesures pénibilité, il n'y en a plus besoin, dit-elle, souhaitant surtout que le système soit lisible.
Je pense que la retraite, c'est le moment où justement les gens construisent leur autre vie. Et il faut qu'ils puissent la construire sans être ballottés dans des réformes permanentes, illisibles, tellement complexes qu'en réalité personne n'arrive à savoir exactement à quel âge ou dans quelles conditions ils vont pouvoir sortir.
Marine Le Pen interrogée pendant cette conférence de presse sur son propre âge de départ à la retraite, sourire de la candidate, 65 ans je crois, mais je ne me suis même pas interrogée dessus, comme quoi ça ne me trotte pas dans la tête.
Élodie Forêt avec Laurent Maquetti. Et puis pour connaître les propositions des principaux candidats à la présidentielle sur la retraite, vous trouverez le détail complet sur notre site franceinter.fr. Par ailleurs, Nicolas Bay, ancien cadre du Rassemblement National qui a annoncé hier son ralliement à Éric Zemmour, a porté plainte aujourd'hui contre les accusations de sabotage du RN. Nicolas Bay accuse le Rassemblement National de dérive sectaire.
Au chapitre économie, Frédéric, Bercy fait les comptes concernant l'emploi.
Oui, le ministère de l'économie, des finances et de la relance dresse un bilan très positif et annonce des dizaines de milliers d'emplois grâce aux relocalisations prévues dans le dispositif France Relance. Depuis sa création en septembre 2020, le plan a permis au gouvernement de soutenir près de 800 projets de relocalisation d'activités industrielles dans toute la France, dont 72 nouveaux projets dévoilés aujourd'hui. Coût total pour soutenir ces projet, près de 5,5 milliards d'euros, dont 1,5 milliard d'aides publiques. Bonjour Kathleen Comte.
Bonjour.
Un investissement qui, d'après le ministère, a permis de créer ou de conforter près de 100 000 emplois dans le secteur.
Difficile pour le moment de savoir la part d'emplois créés et celle d'emplois maintenus ou confortés. En tout cas, le ministère affirme que ces investissements, publics ou privés, sont bénéfiques pour le secteur. Il faut dire que l'industrie était en peine ces dernières années. On parle d'un million d'emplois perdus en 20 ans. France Relance a donc redynamisé le secteur grâce notamment à trois dispositifs qui permettent de relocaliser, voire de créer certaines activités dans l'Hexagone. Le but étant aussi de limiter les importations. C'est le cas par exemple pour l'électronique. Le ministère explique avoir notamment soutenu une filière d'assemblage et de conditionnement de puces de semi-conducteurs. Pour Alexandre Sobo, tous ces projets sont la preuve qu'on ne manque pas d'idées en France, mais bien de moyens. Le président de France Industrie a toutefois conscience qu'il faudra du temps pour revenir dans la course, car le secteur de l'industrie reste fragile. Il représente actuellement 13% du PIB, moitié moins qu'en Allemagne. Les regards sont désormais tournés vers l'été et le retour à la normale de l'économie européenne. Les aides sectorielles pourraient être de nouveau plafonnées.
Kathleen Comte, merci. Les Jeux Olympiques de Pékin et le sacre attendu de la jeune patineuse russe Kamila Valieva dans moins de deux heures maintenant. Un programme libre en patinage artistique qui s'annonce extrêmement spectaculaire avec un enchaînement annoncé de quadruple saut de la part des trois patineuses russes lors de ce programme. En direct de Pékin, on retrouve Jérôme Val. Bonjour Jérôme.
Bonjour Frédéric.
Et pourtant, le contexte rend l'enthousiasme difficile. Kamila Valieva, 15 ans, est au centre d'un scandale de dopage.
Et on imagine la pression qui pèse sur les épaules de cette adolescente de 15 ans venue ici en Chine avec ce statut de grandissime favorite pour ce concours individuel, alors que c'est seulement sa première saison chez les seniors, mais qui se retrouve dans l'œil du cyclone. Ses soupçons de dopage après un contrôle positif avant les Jeux à une substance interdite. Le tribunal arbitral du sport l'a autorisé à disputer ce concours sans se prononcer sur le fond de l'affaire. La procédure est toujours en cours, mais Kamila Valieva, la première femme à réussir un quadruple saut aux Jeux Olympiques, a paru vaciller ces derniers jours en pleurs lors d'une interview à la télévision russe avant son entrée en lice, moins solide sur la glace et en sanglots pour le programme court avant-hier. Elle a néanmoins viré en tête et c'est sur les notes du boléro de Ravel qu'elle tentera un peu avant 15h de remporter ce titre olympique avec, selon ce qui est annoncé, un quadruple saut de triple axel. Mais dans ce scénario, elle n'aura pas droit à sa médaille. Le CIO a déjà averti, aucun podium ne sera organisé, le résultat sera gelé en attendant de connaître la vérité. Quoi qu'il arrive tout à l'heure, le soupçon ne sera pas levé.
Jérôme Val, en direct de Pékin, merci.
Et on revient en Essonne, Frédéric, au lycée de Les Souriaux, aux Ulis, avec ses 1400 élèves qui sont en ce moment en train de se restaurer ou de faire une petite pause. Certains ont accepté de la passer avec nous, merci à eux. Le 13-14, en direct de la salle polyvalente du lycée de Les Souriaux, où un rayon de soleil pointe par la fenêtre. Le point complet sur la météo dans un instant.
France Inter aime.
Un autre monde, le nouveau film de Stéphane Brisset.
Je t'ai dit, ça allait être compliqué tant que le groupe Elson n'atteint pas ses objectifs.
Alors moi, je dépends du groupe Elson. Je suis mariée avec Elson.
Philippe et Anne divorcent. Leur amour s'est abîmé par la pression du travail.
Si on ne fait pas le job, ce sera notre responsabilité personnelle, notre faute, notre manque de courage.
Cadre performant, Philippe ne sait plus répondre aux demandes contradictoires de son entreprise. Il est à l'heure des choix. Un autre monde, avec Vincent Lindon et Sandrine Kiberlin, actuellement au cinéma. Un film France Inter.
Le temps de votre jeudi.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Je le disais, un peu de soleil à travers la grisaille ici en Essonne. Nuages, vent et douceur au programme aussi ailleurs.
Oui, il fait très doux. 11 degrés à Nancy et Amiens cet après-midi, 13 à Caen, Strasbourg et Dijon, 14 à Paris comme aux Ulis d'ailleurs, 15 degrés à Bordeaux, 16 à Lyon, 20 degrés à Perpignan et à Toulon. En Méditerranée, c'est du soleil avec du vent, soleil aussi sur les Pyrénées. Sur les autres régions du sud et près de l'océan, beaucoup de nuages, quelques pluies. Et puis sur les régions du nord, la nuage est éclaircie au menu avec du vent encore, hein, jusqu'à 50 à 70 km à l'heure cet après-midi. Demain, attention, un fort coup de vent balayera les régions du Nord, en particulier de la Normandie et Hauts-de-France. Des rafales jusqu'à 120 km à l'heure dans les terres et 110 à 140 sur le littoral.
Merci Élodie Calac de Météo France. Il est 13h22 sur France Inter.
France Inter, le 13-14. Marion Loup.
Génération engagée, globalement heureuse, mais pas passionnée par le vote et les urnes. C'est comme ça que les études récentes décrivent les jeunes électeurs et futurs électeurs de moins de 25 ans. En 2017, près d'un Français sur trois, entre 18 et 25 ans, n'a pas voté au deuxième tour de la présidentielle. Et au régional, l'an dernier, on comptait dans leur rang près de 9 abstentionnistes sur 10. Pour en parler avec nous tout de suite, des élèves de terminale du lycée de Les Souriaux, Rania, Valentin, Fazila, Anaël et Paul. Bonjour à tous.
Bonjour.
Alors, la politique, ça vous intéresse? Je me tourne peut-être vers Fazila parce que vous êtes dans un atelier Sciences Po, je crois.
Oui.
Alors, ça vous intéresse?
Ça m'intéresse. Enfin, pour l'instant, j'ai regardé les différents programmes des potentiels candidats à l'élection présidentielle. Et enfin, pour l'instant, il n'y en a pas vraiment un qui me plaise en particulier. Enfin, je trouve qu'il y a plusieurs incohérences quand même. Comme par exemple, Anne Hidalgo, elle est de gauche. Enfin, il y a certaines valeurs que j'ai de gauche que j'ai aussi avec elle. Mais par exemple, dans son programme, j'ai vu qu'elle proposait 5000 euros à chaque étudiant. Mmh. Et je trouve que c'est un peu surfer sur la précarité justement des étudiants. Et c'est un peu acheter leur vote. Du coup, si j'aurais pu voter là pour ces élections, j'aurais pas voté pour elle du tout. Parce que c'est pas une initiative qui me plaise plus que ça.
Rania, vous leviez la main.
Oui, je souhaite rejoindre du coup l'avis de Fazila. Je trouve ça aussi un peu vicieux parce que je trouve qu'aussi elle veut acheter les votes des jeunes. Elle sait que on va être engagés pour la plupart et du coup le fait qu'elle veuille nous donner 5000 euros, clairement on n'y croit pas.
Alors il y a plusieurs candidats hein, qui font des propositions pour le pouvoir d'achat, la précarité des jeunes, des lycéens, des étudiants. Donc on va peut-être en reparler un peu plus longuement tout à l'heure. Mais je me tournais vers vous, Paul, parce que je voulais savoir un peu quelle image vous aviez, vous, des politiques. Est-ce que vous êtes d'accord avec Fazila Irania?
L'image qu'on a actuellement, c'est surtout... Les partis, en fait, sont différents. On voit un peu de tout. Mais ce qui se passe au niveau des jeunes, c'est qu'ils essayent d'avoir une communication, en fait, pour les attirer vers eux. Comme Macron, par exemple, qui est très, très axé sur la communication, sur les vidéos, sur les réseaux, qui est très présent là-dessus et qui essaie de convaincre les jeunes, sans pour autant avoir un programme qui intéresse qui que ce soit, parce que la moitié des personnes ne sont même pas au courant de ce qu'il propose, de ce qu'il fera, de ce qu'il a fait. Et les gens voteront pour lui, justement parce que c'est le plus présent sur les réseaux. Après, certains proposent des aides financières qui sont une aide en fait, mais qui n'en est pas une, ce qui au final qui va juste être utilisé, enfin qui va être mal utilisé. Et ça serait plus intéressant pour moi d'avoir des aides au niveau des bourses, par exemple, de pouvoir accéder à des études plus longues, plus prestigieuses pour tout le monde.
Et ce que dit l'étude de l'Institut Montaigne qui est sortie récemment, c'est qu'une grande majorité des jeunes considèrent que les candidats à la présidentielle et les politiques en général sont corrompus. C'est une vision que vous partagez?
On ne peut pas avoir cette vision directement, mais enfin, c'est un monde qui nous dépasse, hein, je pense, à notre âge. On peut essayer de se renseigner, mais on ne comprendra jamais les vices et le fond de ce monde. Après, est-ce que les politiques sont corrompus? Ça serait dommage de dire que oui, sans pour autant avoir des preuves, sans pouvoir argumenter sur ça. Donc on reste sur une position neutre, je pense. Donc voilà, même si on a des doutes, évidemment, par rapport à ça.
Valentin, vous vous positionnez comment? Vous arrivez à différencier la gauche de la droite?
Actuellement, plus vraiment, parce que au final, on retrouve dans leurs promesses, effectivement, des idées de gauche et de droite. Mais une fois que ces personnes qui sont au pouvoir... Elles font une politique que je trouve assez similaire en fonction de la gauche et de la droite. Ça change pas beaucoup.
Qu'est-ce qui définit la gauche et la droite, d'après vous?
Pour moi, la gauche est plus dans des idées de social, d'aider les plus démunis. Et la droite, c'est plus d'aider les personnes à créer les entreprises. C'est plus économique.
Mais on voit pas forcément la différence au final, c'est ça que vous me dites. Alors c'est vrai qu'il y a d'autres façons de s'engager que de faire techniquement de la politique à proprement dire. Par exemple, Anaël, vous êtes dans plusieurs instances au niveau du lycée.
Oui, je suis vice-présidente du conseil de vie lycéenne ainsi que présente au conseil d'administration.
Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça, justement, de vous impliquer comme ça?
En fait, je me suis rendu compte que la discussion entre les professeurs et les élèves était très compliquée parce que forcément, les élèves n'ont pas forcément le meilleur langage et les professeurs ont tendance à ne pas comprendre les plaintes des élèves et pensent que c'est simplement de l'arrogance de la plupart du temps. Et je pense que c'est important que quelqu'un puisse représenter les élèves et les écouter, en fait.
Et est-ce que la prolongation de ça, ça peut être plus tard, je sais pas, syndicalisme étudiant peut-être, politique peut-être, ou vous vous posez même pas cette question-là?
Pour le moment, pas encore. Je pense pas à ça.
Et dans les autres façons de s'engager, il y a aussi le sport. Rania, vous êtes sportive?
Oui, je fais du foot féminin. Ça fait depuis que je suis en quatrième. Pourquoi j'ai choisi ce sport-là, c'est parce qu'en fait, je voulais casser les codes. Parce que au collège, c'était tout le temps les garçons qui faisaient du foot.
Et donc c'est militant presque.
Oui, un peu. C'était jamais les filles qui faisaient du foot. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas? Je vous avoue qu'au début, quand je me suis inscrite, on s'est moqué de moi. Surtout les garçons, ils disaient, oui, mais pourquoi elle fait du foot? C'est une fille, etc. Et au final, ils ont fini par l'accepter. Et carrément, parfois, on peut jouer avec eux au foot sur le terrain. Et voilà, je trouve que c'est des idées qu'il faudrait intégrer pour le futur. Et surtout que c'est bien, parce que si on commence à intégrer ces idées-là dès notre plus jeune âge, pour notre vie future, il y aura une meilleure intégration de la place de la femme, on va dire.
Fazila, vous organisez, je crois, un concours d'éloquence.
Ah oui, comme je vous l'avais dit auparavant, moi, au lycée, je fais partie de la MDL. C'est aussi une instance du lycée, comme le CVL. C'est la maison des lycéens. Et contrairement au CVL, nous, on se charge d'organiser des projets qui sont dans le lycée ou même à l'extérieur, qui sont pour les lycéens. Et c'est organisé justement par des lycéens.
Alors pourquoi vous avez fait ce choix-là?
Alors j'ai décidé justement de faire ce choix-là parce que je me sentais impliquée en organisant différents types de projets. Et surtout que ça m'impliquait pas que moi directement, on est en équipe, on doit diriger ça ensemble. Enfin, il y a déjà une sorte de cohésion qu'on doit créer entre nous.
Et puis, c'est pour les lycéens aussi, c'est pour rendre la vie au lycée un peu meilleure, si j'ai envie de dire ça comme ça.
Et pareil, même question qu'à Anaëlle, peut-être, est-ce que ça peut se prolonger plus tard, peut-être, par un engagement politique?
Quel genre d'engagement politique?
Peut-être syndicalisme étudiant, peut-être.
Ah oui, totalement, oui.
Est-ce que c'est le début d'une forme d'engagement qui peut devenir politique, ou est-ce que pour vous, la politique, c'est totalement exclu, par exemple?
Je pense pas que pour moi la politique elle soit totalement exclue. Ça peut, les genres d'instances comme le CVL ou la MDL, ça peut être un déclic par exemple pour à la suite continuer peut-être vers la politique.
En tout cas, pour s'intéresser à la politique et pour s'engager aussi, il faut s'informer. Alors comment vous vous informez peut-être, Valentin ?
Moi, principalement par les réseaux sociaux. Je pense que les jeunes s'informent par les réseaux sociaux. Il faut faire attention quand même de s'informer sur des réseaux. Sur des comptes de médias traditionnels, je pense, parce qu'il y a quand même pas mal de fake news qui passent sur les réseaux.
Je vois les filles, Rania Fazila qui acquiescent. Vous aussi, vous faites attention aux sources quand vous... Je crois que vous êtes une majorité à vous informer sur les réseaux sociaux, mais attention à d'où ça vient, en fait.
Moi, personnellement, j'essaye de vérifier les sources autant que je peux. Et pour tout ce qui est un peu actualité, etc., je suis Hugo Décrypte. Enfin, je sais qu'il a un
petit
goût. Vous
êtes plusieurs à nous avoir dit ça. Hein.
Il est jeune et puis sa façon de s'adresser, justement, elle est plus proche avec le public qu'il a. Et puis ça nous facilite aussi à pouvoir comprendre les différents programmes politiques, par exemple.
C'est quoi les grands thèmes, les grands sujets qui vous intéressent? Je me tourne vers vous, peut-être, Paul.
Les grands sujets intéressants, moi je pense que c'est déjà au niveau économique, hein, avec la crise qui vient de se passer, du coup, de voir ce qu'ils proposent pour rebondir par rapport à ça. Et on voit aussi avec, par exemple, l'inflation là qui est en train de mettre en péril des familles entières. Et pourtant, le problème n'est pas réellement réglé. Ils essayent de trouver des solutions, mais qui sont juste en fait un pansement sur une blessure déjà bien ouverte. Hein. Donc voilà,
mais donc vous regardez sur les réseaux sociaux les sujets sur l'inflation?
Oui, bien sûr, mais c'est surtout au niveau des actualités aussi sur la télé, par exemple, où ils en
aussi
parlent énormément.
Aussi les médias traditionnels.
Bien sûr, oui. Et enfin, moi je pense aussi, en rebondissant sur le fait des réseaux sociaux, par exemple, on peut prendre l'exemple de Zemmour, où il y a une histoire qui a tourné comme quoi il manipulait en fait sur Twitter pour arriver en haut des tendances. Donc on voit en fait que les politiques sont vicieux aussi, hein, pour arriver à leur fin.
C'est l'opinion que vous en avez.
C'est l'opinion qu'on en a. Les faits sont avérés même par les gens travaillant avec Zemmour lui-même. Donc chose qu'en fait qui fait qu'il se retrouve évidemment sur des plateaux de télé, alors qu'en fait, les gens ne sont pas si intéressés que ça. Mais finalement, en fait, en manipulant ça, il arrive à être invité.
En manipulant les réseaux sociaux,
il arrive à se faire inviter dans des émissions et par la suite réussir à convaincre des gens qui en fait n'adhèrent pas à ses idées réellement, mais se disent c'est un personnage public, ses idées peuvent être intéressantes parce que ce qu'il dit. Il parle franchement des choses.
Alors, je ne sais pas si on peut dire manipulation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il y a forcément des stratégies d'influence des partis et des politiques sur les réseaux pour essayer de communiquer. Anaëlle, comment vous faites-vous pour ne pas avoir l'impression d'être manipulée?
En fait, je regarde les informations principalement avec des sources neutres, du coup. Comme elle a dit Fazila, Hugo Décrypte, il est bien. Parce qu'en fait, il reste neutre, peu importe l'opinion d'une personne. Il va réellement expliquer les choix, les propositions politiques. Et du coup, je pense que c'est important parce que les médias classiques, en fait, vont expliquer, mais on sent dans la façon dont c'est écrit qu'il y a une préférence en général.
Ah, vous pensez à quoi? La presse écrite, la télé, la radio? J'inclus France Inter dedans.
Je dirais surtout sur la presse écrite parce que c'est beaucoup plus sur la technologie. Mais je ne sais pas du coup pour la radio.
Fazila, vous intéressez aussi aux questions de santé en cette période d'épidémie?
En question de santé, principalement, moi je m'intéresse à l'état actuel des hôpitaux qui est assez compliqué. Et ça, on ne peut pas prendre l'excuse de la pandémie, puisque même avant que le Covid commence à se répandre un peu dans le monde, on avait déjà fait face à plusieurs grèves du personnel soignant. Et jusqu'à aujourd'hui, l'état dans ces lieux-là, il fait que de s'aggraver. Et puis, même dans les programmes politiques, moi, j'ai pas vu grand-chose pour ce qui était de l'accessibilité des transports pour les personnes à mobilité réduite. Parce qu'il faut quand même le rappeler aujourd'hui, mais il n'y a que 3% du métro parisien qui est totalement équipé pour ces personnes-là. Et moi, je trouve pas que ce soit normal. Enfin, c'est des sujets qui devraient être plus abordés, selon moi.
Rania, je me tourne vers vous parce que vous avez parlé, quand on s'est parlé auparavant, vous avez parlé écologie et je crois que c'est un sujet qui intéresse la plupart de vos camarades.
Oui, et surtout que c'est un sujet qui ne touche pas que la France et le monde entier parce qu'aujourd'hui, avec les émissions de gaz à effet de serre, ça va mal. Après, il y a eu la COP26, donc il y a eu des décisions qui ont été prises. Néanmoins, après, elle reste un peu... sur du long terme, c'est-à-dire c'est pour 2030, pour 2050, etc. Et je trouve que c'est un sujet qui est important, surtout en tant que citoyen, parce qu'on devrait tous agir. Et j'ai l'impression que les Français ne se sentent pas trop concernés par le sujet et qu'ils attendent plutôt qu'on arrive dans une situation grave pour se bouger. Et je trouve qu'il est important aussi pour les présidents de présenter dans leur programme au moins quelques actions qui font que...
Et c'est pas le cas aujourd'hui, non. D'après vous ?
Non, j'ai pas l'impression.
Alors, la question de la jeunesse en elle-même, c'est aussi un thème de campagne, hein, d'élection présidentielle. Alors, chaque candidat a sa proposition, on en a déjà un peu parlé. On va en parler aussi avec notre spécialiste du service politique. Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
Priorité des candidats à la présidentielle, donc sur la jeunesse, c'est la question de la précarité.
Oui, surtout à gauche. Jean-Luc Mélenchon promet 1063 euros par mois pour les étudiants. 1063 euros, c'est le seuil de pauvreté. Fabien Roussel, 850 euros, lui aussi pour les étudiants. Christiane Taubira, 800 euros pour tous les jeunes pendant 5 ans. Yannick Jadot, au moins 660 euros pour les plus en difficulté. Et puis Anne Hidalgo, 564 euros pour les 18-25 ans les plus précaires. Et 5000 euros en une fois pour tous les jeunes à leur majorité. À droite, Valérie Pécresse promet 670 euros, mais seulement pour ceux qui se formeront à plein temps dans les métiers qui recrutent. À l'extrême droite, Marine Le Pen veut exonérer d'impôt sur le revenu tous les jeunes jusqu'à 30 ans. Quant à Éric Zemmour, il évoque l'exonération des frais de notaire pour un premier achat immobilier. Enfin, Emmanuel Macron n'est pas encore officiellement candidat, mais il a annoncé la création d'un revenu d'engagement qui doit entrer en vigueur le mois prochain. 500 euros par mois pour les jeunes précaires sous condition de formation.
Et Simon, quelles autres propositions marquantes pour les jeunes dans cette campagne ?
Oui, par exemple, le droit de vote à 16 ans, soutenu par Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot ou Anne Hidalgo, contrairement d'ailleurs aux jeunes eux-mêmes qui y sont largement défavorables dans les enquêtes d'opinion. Parmi les autres propositions, je peux vous citer celle de Valérie Pécresse, la création d'une banque nationale des jeunes pour financer leurs études supérieures, celle de Marine Le Pen, l'abaissement à 14 ans de l'âge minimum pour entrer en apprentissage, ou celle du chef de file des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, qui évoque une sorte de retour au service obligatoire, une conscription de 9 mois payée au SMIC avec formation militaire ou tâche civile d'utilité publique.
Merci Simon Le Baron, service politique de France Inter. Alors on le voit, hein, la question du revenu minimum ou de l'argent qu'on pourrait verser aux jeunes, elle revient beaucoup dans les propositions des candidats. Valentin, peut-être, qu'est-ce que vous en pensez de cette question ?
Moi, je pense que ça pourrait être pas mal parce que la précarité étudiante aujourd'hui, c'est un sujet qui est important, surtout après le Covid. Mais je ne sais pas où ils vont aller chercher cet argent, c'est ça.
Vous avez envie de le savoir.
C'est ça. Où cet argent va être cherché.
Annelle, vous avez l'impression que ils vous parlent les candidats quand ils proposent ce genre de mesures, les 5000 euros dont on parlait tout à l'heure avec Falzila d'Anne Hidalgo, les 800 par mois de Christiane Taubira.
Je pense que ça pourrait aider énormément d'étudiants aujourd'hui qui sont en précarité, mais j'ai l'impression que ils veulent simplement acheter les étudiants. Parce que du coup, les étudiants qui sont en précarité...
Tout le monde fait oui autour de la table.
Ils ont besoin de cet argent, mais on ne sait pas dans quelles conditions est-ce qu'il va être donné complètement, dans quelles conditions ça va être attribué. Et mis à part ça, en fait, quelles autres propositions en fait, ils ont.
Et par exemple, Valérie Pécresse, qui est la candidate Les Républicains, elle effectivement propose de verser de l'argent sous condition... un revenu jeunes actifs, mais seulement pour les étudiants qui seraient dans des filières, des métiers en tension où il y a beaucoup de manque de main d'œuvre. Paul, ça vous inspire quoi ça ?
Je pense que c'est intéressant. Enfin, elle propose en fait de l'aide aux gens qui vont faire ensuite, enfin qui vont rendre en fait l'aide donnée par l'État en s'engageant dans un métier où il y a du besoin. Mais je pense aussi que indirectement en fait des aides sans condition, par exemple pour tous les étudiants, ça va créer un fossé en fait entre les élèves sérieux qui vont eux suivre leur cursus, se rendre compte de la chance qu'ils ont, et ceux qui vont juste profiter de l'argent pour leur plaisir personnel en fait. et ne plus forcément suivre les cours, ne pas s'engager réellement, et se dire bah que c'est facile en fait en France de vivre sans pour autant ne pas avoir à se bouger. Mmh. Moi je trouve ça un peu dommage de proposer ça et de réussir à acheter en fait des jeunes qui en fait n'ont pas la possibilité de pouvoir réellement s'engager en fait dans quelque chose qui leur plaît.
Mmh. Rania, une des propositions aussi de certains candidats hein, comme Anne Hidalgo ou Valérie Pécresse, c'est d'encourager le travail et les études en même temps. Je crois que vous travaillez, vous, en même temps que vous êtes
côté,
au lycée.
Du coup, oui, je travaille à Burger King.
C'est quelque chose de bien, que ça vous apporte quelque chose ou c'est plutôt gênant?
Non, au contraire, justement, déjà, ça m'apporte de l'expérience parce que je sais que, arrivé à 18 ans, quand on va rentrer dans les études supérieures, si on veut travailler à côté, forcément, les entreprises, elles demanderont, de l'expérience professionnelle dans les CV. Et puis, si elles voient que, on arrive avec un CV vide, oui, on arrive avec notre petit bac. Je pense pas qu'on va être pris aussi facilement. Et aussi, ça permet d'acquérir de l'expérience, encore une fois, des compétences et de rentrer réellement dans le monde du travail parce que c'est ce qui nous attend justement après les études. Et je trouve que c'est important de s'y mettre à l'avance plutôt qu'attendre de finir ses études pour pouvoir travailler.
Mmh. Alors, petite expérience, qu'on entendait Simon Le Baron qui disait le droit de vote à 16 ans, les jeunes n'y sont pas favorables. On va faire un petit vote à main levée autour de la table. Qui est pour? Qui est contre? Ah bon, alors il y a que Fazila qui est pour et tous les autres sont contre. Est-ce que vous voulez m'expliquer peut-être, Fazila, pourquoi vous êtes pour?
Alors moi je suis pour parce que tout simplement cette année il y a les élections et j'ai 17 ans, je vais avoir 18 ans le 23 juillet. Donc j'aurais bien
aimé... C'est la frustration.
Ah totalement, mais on est vraiment sur la frustration totale. Enfin, j'aurais bien aimé pouvoir choisir un peu mon futur président. Mmh. Du coup là, je pourrais pas.
Paul, vous allez pouvoir le faire, je crois, Rania aussi. Ouais. Vous savez déjà pour qui vous allez voter.
Alors, est-ce qu'on sait des... Enfin, moi,
vous n'êtes pas obligé de le dire. Hein,
moi, mais... non, mais enfin, je ne dirais pas. Mais je pense que mieux vaut en fait se renseigner réellement. J'ai pas assez vu les programmes ou quoi que ce soit pour choisir. Je choisirai en fonction aussi de ce qui me plaît dans ce qu'il propose, hein, parce qu'on joue aussi notre avenir indirectement en votant. Mmh. Et du coup, en fait, pour revenir à l'âge de 16 ans, moi, je trouve ça beaucoup trop jeune, sachant que même à 18 ans, aucune personne, franchement, n'est renseignée. Si on fait un sondage dans le lycée, on va avoir 1% des gens, peut-être, qui seront renseignés, qui vont aller voter, peut-être même. C'est juste une mesure, en fait, qui va faire que la communication va encore plus se cibler sur les encore plus jeunes. Et que, du coup, ça sera plus de la politique, mais ça sera un jeu, en fait.
Rania, vous êtes sur la même ligne?
Oui.
Vous aussi, qui allez pouvoir voter. Vous n'auriez pas voulu voter avant?
Non, pas du tout, parce que j'aurais pas eu le recul que j'ai aujourd'hui. Et même à 16 ans, je trouve qu'on n'est pas encore assez conscient des choses. Et surtout que 16 ans, c'est encore trop jeune. Enfin, c'est quand même l'avenir du pays, des Français qui est en jeu. Et je trouve que 16 ans, c'est pas nécessaire. 18 ans, c'est bien.
Parmi les autres propositions, il y a l'idée de rétablir un service national. Alors, je sais pas, Anaëlle, vous qui êtes très impliquée dans la vie du lycée, vous pensez qu'il faut rétablir un service national militaire, peut-être, ou pas?
Je suis pas trop d'accord avec cette idée parce que j'estime que tous en fait devraient avoir l'opportunité de vraiment vouloir le faire en fait. Mm. Et je pense que c'est important, surtout si on sait pas ce qui veut se passer, mais si on doit défendre notre pays, l'important c'est que chaque personne qui s'est inscrit en fait le veuille réellement et ne pas forcer les étudiants qui sont encore jeunes ou juste simplement des étudiants qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire dans leur vie, on va pas leur dire aller à l'armée, c'est une option et c'est tout.
Mmh. Et pour revenir au débat de tout à l'heure sur les 16 ans, les 18 ans, etc., vous n'avez pas encore 18 ans, vous avez déjà un ou une candidate que vous préférez aujourd'hui? Pareil, vous ne sentez pas obligé de donner un nom si ça vous met mal à l'aise?
Non, aujourd'hui, je ne connais pas forcément les programmes, comme a dit Paul, et je pense qu'il faut plus de temps que ça, du coup, pour pouvoir attendre peut-être le premier tour.
Eh ben merci aux élèves de terminale de Les Souriaux, Fazila, Anaël, Paul, Rania et Valentin. Vous restez avec nous pour la suite. Jeunes et politique, c'est au programme aussi de France Inter. Mercredi 22 février, mercredi prochain, donc, les principaux candidats feront leur grand oral à partir de 9h30 face à Karine Becker et Thomas Negaroff. Ce sera à suivre en direct sur franceinter.fr et chemindavenir.fr. Mais tout de suite, on va souhaiter la bienvenue à nos autres invités. François-Xavier Bernard, professeur d'histoire géo et prof principal chargé de cours d'enseignement moral et civique, EMC. Sylvain Mesdag, prof de français en seconde et membre du syndicat SNES. Et Mélanie Schlegel, représentante des parents d'élèves au syndicat APEE. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
France Inter, le 13-14. Marion Loup.
Alors c'est un peu comme Voldemort dans Harry Potter, rien que le nom de Parcoursup, cette plateforme censée permettre l'entrée des élèves de terminale dans l'enseignement supérieur, suffit à faire trembler les élèves et leurs parents. Parcoursup, système en place depuis 5 ans mais qui n'a pas encore complètement convaincu. Comment ça marche? Un dossier avec 10 vœux maximum, une lettre de motivation, des bulletins scolaires, date limite pour cette année de l'envoi le 29 mars. Première réponse à partir du 2 juin, avec beaucoup de pression pour les candidats qui ont l'impression de jouer leur avenir. Mais les professeurs principaux les accompagnent, vous l'avez constaté, dans une classe, Sonia Princey.
Une classe d'informatique. Je m'appelle Pauline Leroux, je suis professeure d'histoire-géographie au lycée de Les Souriaux. Et du coup, là, j'ai une classe de terminale, on va travailler sur Parcoursup et sur l'orientation.
Pendant cette séance, les élèves vont préparer leur lettre de motivation, un exercice difficile pour Julie.
Je vais, comme on dit, me mettre en valeur. En fait, je ne sais pas exactement ce que je dois mettre à l'intérieur et comment mettre en valeur aussi, j'avoue. Ça, je ne sais pas faire un peu.
Or, c'est sur la motivation que les candidats peuvent faire la différence dans les formations les plus sélectives, comme celle que vise Maëly.
Moi, j'ai envie de faire de l'animation, 2D ou 3D, sauf que c'est super stressant parce que l'école où je veux y aller, il n'y a que 1% d'admission. Du coup, ça met un gros coup de pression, mais bon.
1%?
Oui, 1%. Il n'y a que 12 places. En plus, c'est la seule école publique dans l'animation. Mais bon, il faut tenter sa chance, quoi.
L'enseignante Pauline Leroux sait que ce sera difficile pour certains de ses élèves.
Là, il faut aussi, je pense, ne pas leur donner de fausses illusions, en parler en amont, un peu leur dire que voilà, c'est important de tenter, mais qu'ils ne l'auront pas nécessairement et qu'il faut prévoir des plans B dans ce cas-là. Il faut à la fois les pousser, mais en même temps être réaliste.
Antoine, lui, veut intégrer un BTS mécanique, sa passion, mais ce n'est pas gagné non plus.
Il y a quand même de la sélection, parce que je suis en général et ils prennent plutôt des pros et techno. Donc j'ai un peu moins de chance, mais c'est une pression dans le sens où on choisit où on veut aller, mais on ne sait pas vraiment si on va être pris, si on va réussir à faire quelque chose.
Et si jamais tu n'étais pas pris alors, qu'est-ce que tu ferais?
Je pense que j'irai à l'armée, ce sera un deuxième choix.
Et l'avantage, c'est qu'il n'aura pas besoin de passer par Parcoursup.
Merci Sonia Princey, notre spécialiste éducation à France Inter. Vous restez avec nous, nos deux professeurs principaux, nos deux élèves de terminale. On va peut-être commencer par l'expérience vécue. Rania, vous en êtes où de Parcoursup là?
En fait, j'ai échappé Parcoursup. En fait, ce qui s'est passé, c'est que...
Pourquoi vous aviez peur?
Non, c'est pas ça. Je me suis inscrite dans une école privée, en fait, tout simplement, qui est pas sur Parcoursup. Parce qu'en fait, arrivé en septembre, je savais pas du tout ce que je voulais faire. J'étais partie sur le principe de faire prof d'espagnol. Et quand je suis partie au salon de l'étudiant, c'est d'ailleurs, c'est grâce au salon que la plupart de mes amis ont trouvé ce qu'ils voulaient faire d'ailleurs dans leurs études plus tard. J'ai totalement changé d'avis parce que les étudiants de la fac, parce que je voulais aller à la Sorbonne, ils n'étaient pas finalement si heureux que ça. En fait, moi, la première question que je leur posais, c'était « Est-ce que vous êtes réellement heureux dans vos études actuellement ?» Ils me disaient « Non, pas forcément, mais c'est pas grave, on le fait avec. » Et moi, je voulais pas en fait me lancer dans des études où je serais malheureuse. Et surtout que j'acceptais pas le fait que on soit choisi par un algorithme. Je comprends pas le fait que ce soit un site qui doit choisir là où on doit être placé.
Il y a quand même un être humain qui va lire votre lettre de motivation.
Oui, mais quand même, est-ce qu'on en attend? Est-ce qu'on est pris ou pas? Ou avec des conditions? Et c'est un stress permanent. Je sais que dès septembre, on nous mettait la pression. Oui, Parcoursup, faut savoir ce qu'il faut faire.
C'est les profs qui sont là, c'est ça?
Oui.
D'accord.
Après, ils ont raison, parce que dans tous les cas, le 20 janvier, Parcoursup avait ouvert et il était temps de s'inscrire, etc. Mais oui, il y a énormément de stress et beaucoup d'élèves sont dans le stress.
Dont vous, et vous avez réussi à y échapper. Valentin, vous en êtes où?
Moi, mes parents m'ont beaucoup aidé déjà par rapport à Parcoursup. Ma prof,
c'est bien d'avoir des
aussi.
Parents parfois.
Oui, et du coup, par rapport à ça, c'est vrai que c'est une fois qu'on a compris, ça marche, mais... C'est vrai que la première approche est compliquée. Il y a plein d'onglets, il y a plein de choses, et on a à part avec.
Mais dans le logiciel, la plateforme est difficile d'accès, d'accord.
Pas difficile d'accès, mais une fois qu'on a rentré nos codes, moi je trouve que c'était un peu compliqué de savoir comment les écoles, quelles écoles prendre, surtout le principe des sous-vœux, où certains vœux où on peut prendre un seul vœu, et dans certains autres ça compte pour un vœu, mais on peut mettre plusieurs écoles. Ça, c'est un principe que j'ai trouvé assez compliqué, où du coup, on ne sait pas vraiment combien, au final, on a vraiment de vœux. Moi, par contre, je trouve que le principe de l'algorithme, c'est pas plus mal, parce que du coup, le problème, par contre, c'est qu'on connaît pas vraiment, c'est un peu sombre, on sait pas vraiment de ce qui prend l'algorithme, mais je trouve
donc que la formule qui fait fonctionner, qui fait tourner en fait la plateforme, par
c'est ça,
en quelque sorte.
Mais par contre, je trouve ça pas mal dans le sens où du coup, on est plus sur un phénomène d'égalité. On est plus ouais, sur une égalité.
Donc c'est vos parents qui vous ont aidé à faire vos vœux.
C'est mes parents qui m'ont aidé, oui, à faire les vœux et à faire les lettres aussi de motivation.
Donc pour faire quoi en ce qui vous concerne?
Moi je veux faire quelque chose d'assez spécifique. J'aimerais bien devenir régisseur lumière. Et du coup je vais faire un day in made de mention régie lumière.
Et donc là pour ça vous avez fait 10 vœux sur 10.
Pour ça ça dépend en fait. Il y a le day in made où c'est un sous-vœu, mais il y en a aussi en apprentissage où là pour le coup c'est un seul vœu à chaque fois qu'on met une école.
Et Rania, vous école de commerce je crois, c'est ça?
Oui, c'est une école de commerce de luxe, c'est la Paris School of Luxury. Et du coup je l'avais découvert au salon de l'étudiant, c'était le 28 novembre exactement. Et je me suis inscrite sur le site. J'ai passé 3 concours, c'était des QCM et un entretien de motivation. Et j'ai eu la réponse 2 semaines après si j'ai été prise ou pas. Du coup, j'ai été prise.
Bon, bravo.
Et, oui. Et voilà.
Alors, François-Xavier Bernard, vous êtes prof principal, vous. Est-ce que vous pouvez aussi pallier les difficultés de Parcoursup ou le fait que certains élèves n'ont pas forcément leurs parents à disposition pour les aider? C'est votre rôle, en fait?
Oui, alors, on a un rôle, je dirais, en tant que professeurs principaux de conseil. Notamment sur la stratégie que les élèves vont mettre en place dans l'élaboration de leurs vœux. On l'entendait tout à l'heure dans le reportage sur ma collègue qui disait que il y a des élèves qui ne prévoient pas de plan B. Donc il faut qu'on les aide à prévoir un filet de sécurité, à ne pas demander uniquement des formations sélectives, mais à demander aussi des formations non sélectives, effectivement en guise de filet de sécurité. On est là aussi, je dirais, pour jouer un rôle de soutien psychologique, un petit peu, parce que c'est quand même, la campagne Parcoursup, c'est un moment difficile. Parcoursup, c'est une usine à stress, hein, clairement. Et donc, on est là un petit peu pour essayer de dédramatiser, pour aider les élèves à s'armer de patience quand ils sont sur liste d'attente, parfois pendant plusieurs semaines. Je trouve que ce rôle un petit peu de soutien psychologique est là aussi. Et puis je dirais, pour finir, qu'on a un rôle en matière de méthodologie. On est là pour leur fournir une méthodologie de recherche, une méthodologie pour les aider à rédiger ce fameux projet motivé qu'on évoquait tout à l'heure, qui est une mini-lettre de motivation. Et je dirais qu'on est là pour faire en sorte que nos élèves soient plus autonomes. On n'est pas là pour leur apporter l'information sur un plateau, on est là pour les mettre en capacité de chercher l'information par eux-mêmes, sur les sites, sur Parcoursup, les rendre plus autonomes.
Sylvain Mesdag, vous aussi, professeur principal, et également membre d'un syndicat enseignant, vous êtes un peu sur la même ligne, c'est-à-dire le côté usine à stress, et puis on essaye de rendre les élèves autonomes. Est-ce que vous pensez, comme certains candidats à la présidentielle, qu'il faut abolir carrément Parcoursup?
Effectivement, je rejoins mon collègue sur l'aspect très stressant de Parcoursup. Alors, moi, je suis professeur principal en seconde, donc c'est des problématiques un petit peu différentes, mais malheureusement, le stress reste, puisqu'en seconde, les élèves sont censés choisir la filière qu'ils veulent suivre, et ensuite, s'ils choisissent une filière générale, choisir des spécialités. Or, ces spécialités, on sait qu'elles sont déterminantes sur la suite, et notamment sur les vœux Parcoursup. Et la réforme étant très récente et l'information étant assez mal passée, en fait, pendant très longtemps, moi ça fait plusieurs années que je suis prof principal, pendant ces 2 dernières années, j'avais beaucoup de mal à conseiller mes élèves parce qu'en fait, il y avait beaucoup d'obscurité sur ce que demanderaient les formations post-bac. Et sur la question de Parcoursup ou pas Parcoursup, c'est vrai que le gros problème, c'est qu'en fait, il y a deux logiques qui se heurtent de plein fouet. Il y a la logique du désir de l'apprentissage de l'élève, qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qu'il a envie de faire dans la vie. Et puis, il y a une logique très sévère de sélection, qui est propre à notre système français. Cette contradiction-là, je pense que nous, en tant que profs principaux, on doit vraiment y faire face, parce que c'est parfois difficile pour les élèves et pour nous à endosser.
Mélanie Schlegel, vous êtes parent d'élèves. On entendait Valentin tout à l'heure qui parlait aussi du rôle prépondérant des parents là-dedans. Vous vous sentez comment?
Eh bien, Ben, heureusement qu'on est là, quelque part, parce que effectivement, au niveau du logiciel, on réussit à avoir une prise en main. Pour nous, au contraire, le retour par rapport au logiciel, la prise en main est assez facile, toutes les informations sont là. Mmh. Et effectivement, c'est l'occasion de vraiment dialoguer avec nos enfants pour les aider à faire les vœux, les sous-vœux. Et l'ensemble des compétences, des prérequis pour chacune de formations étant déjà listées, les informations sont déjà au sein du logiciel. Donc à ce niveau-là, c'est un point très positif.
Mmh, mmh. François-Xavier Bernard, le problème, c'est vraiment Parcoursup ou c'est tout simplement un peu ce que disait Sylvain Mesdag, le manque de place
Alors, bien évidemment, oui, il y a un manque de place dans l'enseignement supérieur, en tout cas dans certaines formations qui sont très demandées. Et je pense que Parcoursup n'y est pas pour grand-chose. Parcoursup, globalement, bon, est un outil qui a des imperfections, mais qui remplit sa mission, qui est d'affecter les élèves dans l'enseignement supérieur. Il y a chaque année, il y a quand même très très peu d'élèves qui se retrouvent sans formation. Et on ne peut pas demander à Parcoursup de résoudre tous les problèmes de notre système éducatif. On ne peut pas demander à Parcoursup de résoudre le problème du manque de place, de résoudre toutes les inégalités scolaires. Je pense que parfois, on en attend un peu trop de cette plateforme qui reste simplement un outil d'affectation dans le supérieur.
Un dernier petit mot, parce que l'entretien touche à sa fin, mais Sonia Princé, spécialiste éducation de France Inter.
Oui, la pression aussi s'explique effectivement par le manque de place, et notamment dans les filières courtes qui sont très demandées par les élèves, en particulier les BTS et les BU. Maintenant, et notamment les BUT, il n'y a pas eu de création de place ces dernières années. Donc ce qui fait qu'il y a beaucoup d'élèves qui demandent ces formations et qu'ils ont très peu de chances d'avoir.
Merci Sonia Princé, merci à vous les professeurs principaux, François-Xavier Bernard, Sylvain Mesdag, merci Mélanie Schlegel, merci aussi à Rania et à Valentin. Et Fazila revient avec quelques petites minutes pour un petit pas de côté. Make me dream, make a stream, I don't public, make the scene, I don't cook. I don't clean, but let me tell you, I got this ring. Voilà, c'est Cardi B, hein, si vous ne connaissiez pas, peut-être auditeur de France Inter. Ce sera une des chanteuses qui devrait rythmer le bal du lycée de Les Souriaux cette année, qui devrait, parce que le bal va peut-être avoir lieu après deux années d'interruption. Fazilia, vous faites partie des organisateurs avec la maison des lycéens. Alors, il va avoir lieu ou pas, ce bal?
Alors, normalement, en fonction de toutes les restrictions qu'il y a eu avec le Covid, tout nous permet pour l'instant de pouvoir réaliser le bal. On a le budget et... normalement, il va se réaliser.
Est-ce qu'il va y avoir des gestes barrières particuliers à respecter cette année?
Particuliers, enfin, jusqu'à présent, non. Enfin, il y aura du gel à disposition et bien sûr, il faudra porter le masque. Mais à part ça, normalement, il n'y aura pas grand-chose.
Pour vous, ça va être le premier, en fait, puisqu'il n'a pas eu lieu l'année dernière ni l'année d'avant?
Non, malheureusement, non. Du coup, ça va être le premier, un peu.
Vous avez commencé la préparation de l'événement?
Pour l'instant, oui, on y pense. Déjà, on a un petit budget qui est de côté. On essaye de réfléchir pour... le salaire des vigiles, parce que étant donné que c'est un peu indépendant face au lycée, on doit organiser la sécurité un peu nous-mêmes. Du coup, on essaye de voir niveau budget si ça rentre ou pas pour tout ce qui est de la nourriture. Pour réguler un peu l'alcool aussi, on aura besoin des vigiles, justement, comme je vous l'ai dit. Du coup, il faut qu'on ait un certain budget conséquent pour pouvoir les payer, justement.
Et quand est-ce que vous saurez pour sûr si ça a lieu ou pas?
Pour sûr, je dirais après ces vacances-là.
Après ces vacances-là, il y a une grosse attente de la part de vos camarades, vous avez l'impression?
Ah, pour les terminales surtout.
Il y en a qui font non derrière dans le public, mais, mais pour les terminales, vous dites?
Ouais, pour les terminales surtout, parce qu'on est arrivé en seconde et on était un peu en train de rêver justement avec les différents événements, que ce soit le bal ou même la Saint-Valentin ou quoi. Pour nous, c'était un peu le rêve. Et du coup, 3 ans sans avoir grand-chose, ça fait un peu mal.
Merci beaucoup, Fazila. J'espère qu'il va avoir lieu, votre bal. Je précise aussi qu'il y a une journée porte ouverte au lycée le 12 mars prochain. Donc, merci, Fazila. Merci à tous les élèves et aux équipes du lycée polyvalent de Les Souriaux de nous avoir accueillis, en particulier au proviseur Jean-Louis Loubrieux et au professeur François-Xavier Bernard et Pascaline Borgna. Merci à Sarah Guibaudot et Corinne Audouin, à la rédaction en chef du 13-14, Claire-Sophie Collet aussi, merci beaucoup, attachée de production. Pour le journal, merci à Frédéric Barrère et Estelle Schmitt à la rédaction en chef, à la technique Florent Layani, Stéphane Beaufils, Jean-François Georges, chargé de production Franck Malabry. Et je vous rappelle, hein, jeunes et politiques sont aussi au programme de France Inter. Mercredi 22 février, les principaux candidats feront leur grand oral à partir de 9h30, à suivre en direct sur franceinter.fr et chemindavenir.fr. Mais sur France Inter, dans quelques minutes, d'abord, c'est la Terre au carré. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Marion.
Qu'est-ce que l'écologie, vaste sujet?
Oui, culture écologique, c'est le titre d'un livre qui paraît. Il est signé du philosophe Pierre Charbonnier et il vient bien sûr nous en parler dans un instant.
À tout de suite sur France Inter.